Direct en jeu à la radio insolite, vous savez qu'on aime bien aller dans des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, je pourrais dire que si j'étais, si je faisais le vieux schnock, dire ah, il me manque le musée Guimet, mais le musée Guimet, c'est une très belle histoire. C'est comme le palais de la foire qui se faisait avant. Maintenant, ça s'appelle le musée des confluences. Et je suis avec
Hélène Intervanessian.
Alors, attention, c'est très sérieux parce que vous êtes chef de projet. Comment est-ce qu'on peut vous présenter?
Eh bien, exactement comme vous venez de le faire, comme chargé de projet, c'est-à-dire qu'en fait, je conçois les expositions du musée des Confluences.
Alors là, on est devant. Ce qui est bien, c'est qu'on est en radio et ça va être un peu compliqué pour expliquer un peu dans quelle expo on est. Cette expo, elle a été pensée à quelle époque?
Elle a été pensée il y a 2 ans à peu près, quand on a reçu. Quand on a reçu une très très grande donation, enfin un très grand don, le don de coiffe, 500 coiffes d'Antoine de Galbert.
Et alors, comment est-ce qu'elle s'appelle l'expo et qu'est-ce qu'il y a dedans?
Alors, elle s'appelle la Galerie Émile Guimet. C'est un nouvel espace permanent qui rend donc évidemment hommage à Émile Guimet, à l'ancien musée Guimet, hein, et vous vous en doutez bien, mais aussi au personnage Émile Guimet, qui était un homme de musée, un philanthrope qui a donné de lui-même et de sa collection d'art, enfin pas d'art, pardon, mais d'objets religieux asiatiques. Et donc le musée des Confluences s'inscrit dans une véritable filiation avec cette institution historique qui était le musée Guimet de Lyon.
Il y a un truc, il y a combien de pièces de collection dans la globalité du musée?
Alors le musée détient 3 millions d'objets.
Mais j'en vois pas 3 millions devant moi.
Et là, effectivement, dans cet espace, on présente 250 objets.
Comment est-ce qu'on fait pour passer de 3 millions à 250?
On fait des choix. Des choix esthétiques, des choix qui valorisent les donateurs. Puisqu'en fait, on est dans un espace où on ne présente pas que des objets, on présente surtout des donateurs. On est vraiment dans une galerie hommage, une galerie qui veut valoriser ce partage et cette transmission que font les donateurs quand ils transmettent à une institution publique le fruit de leur passion, le fruit de leur recherche scientifique. Donc voilà, ici, dans cette salle, on présente dans différentes vitrines 250 objets qu'on a effectivement sélectionnés pour leur beauté ou aussi parce qu'ils étaient représentatifs des dons ou des legs qui ont été réalisés auprès du musée, enfin des musées, hein, des musées qui ont constitué enfin, des différentes institutions qui constituent aujourd'hui le musée des Confluences. On va retrouver évidemment les coiffes d'Antoine de Galbert, évidemment la superbe statuaire d'Émile Guimet, mais on va retrouver aussi une collection de fluorite et d'azurite, donc des minéraux qui sont des joyaux, les fleurons en fait de la collection du musée. On va retrouver aussi une très très belle vitrine d'archéologie, une magnifique vitrine de zoologie. On présente aussi de la faune marine, de la paléontologie, enfin voilà toutes les merveilles qu'on peut trouver dans les réserves du musée.
Il y a quelque chose qui est assez original. Dans la première vitrine, vous avez dit qu'il y avait quelque chose, les objets étaient présentés sur des aimants.
Oui, alors c'était
posés sur des aimants.
Oui, en fait, il y a un terme qu'on utilise dans les musées qui s'appelle le soclage. Donc, c'est un terme qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire, hein, c'est un jargon de musée. Le soclage, le socleur, c'est aussi un métier, hein, un métier de musée qu'on ne connaît pas en dehors du monde du musée. Le socleur travaille le métal et en fait, les objets qui sont présentés dans la galerie sont présentés sur des tiges de métal et ces tiges de métal sont aimantées dans le fond de la galerie, dans le fond des vitrines. En fait, ça va nous permettre de faire des rotations assez régulièrement. La première vitrine, en tout cas, a été conçue de cette manière, pour pouvoir recevoir les nouveaux dons qui arrivent assez régulièrement, donc dans différents types de collections. Hein. On peut avoir des dons d'ethnologie, mais aussi très souvent, nous avons des dons en entomologie, donc en étude des insectes.
Alors, quand vous dites ça tourne souvent, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années?
Alors, en fait, les dons peuvent être très réguliers. Ça dépend vraiment des des différents types de collections. En entomologie, on a des dons probablement tous les ans. En ce moment, en ethnologie, on a des dons vraiment quasiment tous les ans. Après, on les accepte pas non plus tout le temps. Hein. Mais ça, je pense que vous verrez ça avec Mary Alokia ou avec David Besson qui vous en dira quelques mots.
Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sur cette c'était la vitrine où on avait les fossiles de, enfin je sais pas si on dit les fossiles de poissons, c'est ça ?
C'est ça, absolument.
Et là, il y a une scénographie qui a été mise en place.
Oui, alors dans chaque vitrine est conçue comme un tableau. Chaque vitrine a une identité qui lui est propre, et celle de paléontologie représente un peu des vagues, enfin une forme d'onde. En tout cas, c'est comme ça que la décrivent les scénographes. Donc voilà, la première vitrine, enfin la deuxième vitrine qui présente de la faune marine s'appelle fond marin. Voilà, c'est voilà comment ils l'appellent. La deuxième, enfin la vitrine de paléontologie s'appelle onde. La vitrine de zoologie s'appelle la marche des animaux et l'envolée des oiseaux. Enfin, La très grande vitrine ethnographique hein, qui fait 12 mètres de long s'appelle donc le panorama ou le paysage. Mais elle a vraiment une forme panoramique. Elle a vraiment été conçue de manière à ce qu'on s'assoie devant et qu'on la contemple. Donc c'est vraiment méditatif. On a la vitrine géométrique qui est donc la vitrine d'archéologie et le soleil noir, la vitrine de minéralogie.
Alors, il y a quand même, on va dire, une petite surprise de l'insolite, un piège pour le visiteur quand on veut regarder le panorama.
Ah oui, vous trouvez ?
On est dessus, c'est-à-dire qu'il y a un endroit pour s'asseoir et naturellement, tout le monde s'assoit.
C'est sûr, effectivement, il y a une assise devant cette vitrine pour pouvoir la contempler et s'immerger dans ces objets magnifiques.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour les découvrir ? Est-ce qu'il y a un guide de visite ? Est-ce qu'il y a un audio guide ? Est-ce qu'il y a une application sur Internet ?
Non, en fait, l'accès sera libre. C'est une salle qui sera ouverte gratuitement au public les week-ends et les jours fériés et les vacances. Donc, vous pouvez rentrer dans cette salle sans avoir besoin d'un billet. Hein. Et donc, il y a effectivement un escalier qui permet d'accéder à cette salle, qui est un peu en dehors, finalement, du parcours, à la fois du parcours permanent et du parcours temporaire. C'est un lieu à part où vous pouvez venir et vous ressourcer, puisque, voilà, comme je le disais, l'accès est et gratuit. Et puis on aura évidemment des médiations, notamment ce week-end, puisque ce week-end, ça, c'est les Journées européennes du patrimoine. Et cette salle sera ouverte à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine.
Alors, quand vous parlez de médiations, c'est quoi ? Ce sont des conférences, sont des rencontres, des échanges, des débats ?
Alors en fait, ce sont des visites avec des médiateurs qui donc font comme une visite guidée, proposent des anecdotes autour de certains objets, autour des donateurs, etc.
On peut finir sur une anecdote ?
Oui, mais alors, laquelle ?
Parce que c'est vrai qu'il y en a, il y en a 250, c'est ça, puisqu'il y a 250 objets ?
Alors, je pense que je n'aurai pas d'anecdote sur tous les objets.
Alors, je peux en proposer une ? Une belle histoire d'amour, puisqu'il y a quelqu'un qui a fait une donation. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu après un mariage avec celui qui est devenu directeur du musée. Ça, je trouve ça très joli, c'est super.
C'est une très belle histoire. C'est l'histoire de Louis Lortet, donc qui était l'ancien directeur du muséum en 1870, qui était un médecin protestant. Et en fait, quand il a rencontré sa femme au temple, donc Inès Brouzet-Rigottier, au début, sa mère, donc la mère d'Inès Brouzet-Rigottier, ne voulait pas qu'elle l'épouse parce qu'il était médecin. Et médecin pour l'époque, c'était. C'était un travail... Non, ce n'était pas un bon travail pour l'époque. Effectivement, c'était un métier de bourgeois, mais qui n'était pas forcément toujours très... Enfin, qui n'était pas valorisé, en tout cas, à cette époque. Et puis, il a été tellement assidu, il lui a tellement fait la cour que, finalement, la mère a cédé. Ils sont devenus amis, en fait. Il est devenu vraiment ami avec Emelina Brouzet-Rigottier. Et il a pu, effectivement, épouser sa fille, Inès. Malheureusement, elle est morte 8 ans plus tard. Et ça a été vraiment l'amour de sa vie. Et on a retrouvé un journal intime dans lequel il évoque sa rencontre avec sa femme et tout son amour. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en travaillant sur ces collections, en travaillant sur cette galerie et en rencontrant le l'arrière-petit-fils, donc Pierre Lortet, de ce personnage, donc qui est Louis Lortet, eh bien, nous sommes rendus compte que finalement, Emelina Brouzet-Rigottier avait aussi donné une collection, était elle aussi une donatrice du musée, une donatrice importante, puisqu'elle a donné une collection d'azurites, donc ce sont des minerais de cuivre, des pierres bleues absolument sublimes, et on en conserve au musée une collection qui est absolument incroyable, c'est un des joyaux de notre collection. Et donc, c'est assez étonnant, on s'est rendu compte plus tard que la belle-mère de Louis Lortet avait donné cette collection, sans même du coup savoir que son beau-fils, enfin qu'elle aurait un jour un beau-fils qui serait directeur du musée.
Donc je fais un résumé, musée des Confluences, c'est un musée familial.
C'est un musée de... Oui, c'est des histoires de rencontres, des histoires de famille, voilà, un musée familial.
L'expo va durer jusqu'à quand?
C'est une expo permanente.
D'accord. Donc tout le temps.
Tout le temps.
Merci à vous.
Je vous en prie.
Le musée des Confluences avec...
David Besson, responsable du service des collections.
Service des collections. Faites-moi un résumé. Qu'est-ce que c'est le service des collections?
Alors, le service des collections, c'est le service qui va gérer toutes les collections, c'est-à-dire s'assurer qu'elles sont bien conservées pour les générations futures, faire en sorte qu'elles soient mises en valeur, que ce soit par les expositions, que ce soit par les publications, et puis qu'elles continuent à servir à l'avancement des connaissances, c'est-à-dire qu'elles puissent être mises à disposition des chercheurs, des scientifiques, des étudiants, voilà, pour venir travailler sur les collections. Et puis ça consiste aussi, bien sûr, à essayer de documenter les collections existantes et puis de continuer à les enrichir.
Alors, je peux vous trahir, je viens d'avoir Elena, qui est la chef de projet de cette expo. Elle m'a dit qu'il y avait combien de pièces. Rappelez-moi combien de pièces il y a dans la collection.
En réalité, c'est assez compliqué de donner un chiffre très précis, mais on peut vous donner un ordre de grandeur. On est à... près de 3,5 millions de pièces ou de spécimens conservés dans notre musée.
Ben non, elles sont où? Parce que 3 millions de pièces,
voilà. Effectivement, il n'y en a qu'une toute petite partie qui est exposée au public. L'essentiel des pièces est conservé dans nos réserves et notamment dans un lieu très particulier qui est un centre de conservation et d'études des collections. Voilà, donc c'est à la fois un endroit où l'on va s'assurer de la conservation de ces objets dans des conditions qui soient les meilleures possibles, voilà, pour les préserver pour les générations futures. Et puis c'est aussi un véritable outil de travail pour accueillir les chercheurs, justement, les scientifiques, pour qu'ils puissent venir travailler sur ces collections et faire avancer un petit peu les connaissances.
Dans 48 heures, ce sont les journées du patrimoine. Qu'est-ce que ça représente pour le musée? C'est une ouverture, c'est le fait de mettre un temps fort durant l'année?
C'est forcément un temps fort, oui, dans l'année. Et puis c'est aussi l'occasion de partager. Enfin, c'est un moment de partage vraiment, vraiment exceptionnel et de grande ampleur. Vous savez, nous, notre travail, c'est avant tout de partager les collections, de partager les connaissances. Voilà. Donc on est évidemment ravis de ce genre d'opportunité.
Je crois que cet été, ça a été impressionnant, 100 000 visiteurs.
Oui, le public était au rendez-vous. Je crois qu'ils avaient vraiment, vraiment envie de revenir. Et nous, on avait vraiment très, très envie qu'ils reviennent parce qu'on fait tout ce travail-là pour eux aussi. Donc oui, ça a été une vraie bouffée d'oxygène cet été de revoir le public.
Et dernière question pour vous. Tous les jours, ça recommence à zéro, en fait?
Oui, tous les jours. Oui, surtout que voilà, le travail sur les collections, c'est vraiment un travail sur le très très long terme et ça continuera bien après moi.
Je vous remercie.
Merci à vous.